Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 19h12 à peu près sur Sud Radio, puisque vous aurez les vraies voix qui font bouger la France. Et aujourd'hui, on va dire que les vraies voix sont un peu un vaccin préventif, puisqu'on a des vraies voix BCG. Vous savez pourquoi ?
Le vaccin BCG.
Avec un B comme Bilger. Puisque nous avons avec nous Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe.
Bonsoir cher Philippe.
C'est comme Conan, Tom Conan, artiste, essayiste, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bonsoir Tom.
Bonsoir à tous.
Et j'ai comme Guirous, de Lydia Guirous, essayiste.
Ça commence trop fort pour moi.
Mais c'est même venu tout seul.
Bonsoir à toi Lydia.
Bonsoir à tous.
Auteur de Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire.
Tabou français qui fait TF comme... Tu pues le fromage.
Oui. Ou TF, c'était un truc, je sais plus. C'était... Oui, c'est bien, tout le monde est en forme aujourd'hui.
Tom, tu es
répudiant. Quel enfant en matière.
Oui. Bon, le BCG, c'était plus médical, quoi.
Voilà, et... c'est dans l'air du temps.
C'est aussi un cabinet de consulting, hein, comme vous savez.
Boston Consulting Group,
exactement. On gagne
absolument.
Beaucoup d'argent.
Ah oui, ah ben là, énormément d'argent, ça paye bien les cabinets de consulting. Hein.
On leur dit bonjour.
Oui, il faut acheter des actions McKinsey, BCG, etc. Le menu des vraies voix à 17h30. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le grand amour au Parti Socialiste, puisque tous les candidats hors NUPES, on va le dire, sont sur un siège éjectable. Leur cas va être examiné par la commission des conflits. Et à mon avis, certains vont être exclus. Et il y a même d'anciens ministres, et on voit même plus loin, puisqu'on pense à exclure ceux qui ont soutenu des candidats non NUPES. Il y a parmi eux un certain François Hollande, juste un ancien président de la République, Bernard Cazeneuve, un ancien Premier ministre, ou encore des gens éminents membres du gouvernement sous François Hollande, comme Carole Delga ou Stéphane Le Foll. Ce sera notre premier débat, donc à 17h30, le PS va-t-il imploser ? À 18h30, faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste ? C'est une tribune publiée aujourd'hui dans le Figaro par l'agrégé de philosophie André Sénic, puisque... on a fait le procès de personne hier, mais on n'a pas fait le procès de l'idéologie qui les anime. Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Et à 18h15, je le rappelle, on aura deux invités exceptionnels. Karine Sansalone, une des victimes de Bamdad Amin, qui est son violeur, qui a fait une vidéo virale aujourd'hui sur les réseaux sociaux où elle pleure puisque... eh bien, son violeur n'ira pas en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a un enfant de 2 ans et qu'on ne sépare pas un enfant de son père. C'est totalement hallucinant.
C'est nouveau,
elle
ça.
Sera avec nous sur Sud Radio avec son avocate, Maître Sonia Elmidouli. Ça va, les vraies voix ?
Super.
Très bien. Après alors, telle introduction.
Oui. Mais alors, comme les sujets sont quand même relativement lourds, j'ai voulu faire un coup de cœur. Ça vous va ?
C'est même nécessaire.
Ah, mais et si je vous ça dis, nous changera.
Et si je vous dis pour qui je vais faire un coup de cœur, vous allez être étonnés. Est-ce que je vais faire un coup de cœur pour Bercy, le ministère des Finances ?
BLM.
Non, c'est pas Bruno.
Bruno Le Maire.
Non, c'est pas Bruno Le Maire. Oui, c'est le ministre. Alors, je vous explique pourquoi. C'est une info passée inaperçue. Bercy envisage un geste pour les propriétaires sur la taxe foncière qui devrait être payée en fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette semaine un geste pour les locataires en plafonnant les loyers à 3,5% alors que l'inflation sera pratiquement au double. Elle est prévue à 6,8 en septembre. Et surtout que la taxe foncière va encore augmenter puisque de moins en moins de gens payent la taxe d'habitation qui va être supprimée et que donc les collectivités locales transfèrent ce qu'elles touchaient en taxe d'habitation sur la taxe foncière. Alors je donne deux chiffres. Entre 2012 et 2020, la taxe foncière a grimpé de près de 29%. Et jusqu'à 37% en certaines communes en 10 ans. Alors, on attend vraiment un geste du gouvernement, puisque je rappelle quand même qu'il n'y a plus de taxe d'habitation pour nombre de personnes, que la taxe foncière a flambé, et que les locataires n'étant pas mis à contribution avec le plafonnement de l'augmentation, je rappelle que les propriétaires les plus fortunés, et je ne les considère pas comme des salauds, n'en déplaise à certains, sont les seuls frappés par l'ISF, puisque ce qui est absolument hallucinant dans ce pays, depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, vous avez 1,5 million d'immobilier, vous payez l'ISF. Vous avez 3 milliards à la bourse, vous ne payez pas l'ISF. Ce qui me semble absolument surréaliste. Donc, ben, c'était mon coup de cœur et je suis content que Bercy envisage de faire un geste pour les propriétaires. Philippe Bilger.
Mais mon cher Philippe, qu'ajouter de plus à votre coup de cœur ? C'est tellement rare de vous entendre féliciter le pouvoir, et Bercy en l'occurrence, que je me garderais bien de vous critiquer. D'ailleurs, j'en serais bien incapable, compte tenu du gouffre qui existe entre votre savoir dans ces domaines et le mien, bien sûr. Vous voyez que je commence un peu l'hyperbole.
Donc vous me dites Bercy pour ce moment ?
Voilà, je l'attendais, je vous l'ai préparé.
Lydia Guirousse.
C'est difficile après tout ça. Il n'y a jamais rien de gratuit. Donc c'est vrai que la suppression de la taxe d'habitation pour près de 80% des Français, il faut la compenser par ailleurs. Et en plus, il y a eu une baisse des dotations pour les différentes collectivités. Donc les maires, ce qu'ils trouvent pour pouvoir avoir un budget à peu près à l'équilibre, augmenter la taxe foncière, ajouter le nombre de rues qui sont en stationnement payant quand c'était gratuit, augmenter le quart d'heure de stationnement, le prix du quart d'heure de stationnement. On a vu que ça a quand même un peu flambé dans beaucoup de villes.
Pourquoi un peu ?
Un peu beaucoup. J'essaye d'être un peu gentil. C'est que la gratuité, il y a toujours d'autres qui doivent la payer parce que ça n'existe pas. C'est un nouveau geste pour préserver le pouvoir d'achat, mais un geste qui se payera à un moment. Et je crains que, comme l'a rappelé Bruno Le Maire, mais comme l'avait rappelé François Fillon avant lui aussi, on a quand même des finances qui sont au bord du gouffre. On a dépassé l'alerte rouge, on va vers le écarlate. Comment ça va se terminer ? Qui va payer ? À quel moment on va pouvoir faire face à toute cette dette, c'est pour les plus jeunes que ça va être plus difficile.
Alors, vrai sujet.
Moi, ce que je trouve effectivement toujours absurde dans les politiques fiscales qui sont menées depuis des années, c'est qu'en fait, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc, en fait, effectivement, on prend quelque part pour en fait ensuite augmenter ou diminuer de l'autre côté. Et souvent, en fait, c'est plus ou moins les mêmes personnes. Donc, c'est ça en fait qui est aberrant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien économiser d'un côté, puis après, selon votre situation dans une période de votre vie, là, vous allez par contre subir les foudres de la réforme. Et deuxième élément, je trouve qu'il y a quand même une vision très manichéenne sur le truc propriétaire-locataire. Moi, je suis très favorable à ce qu'ils aient plafonné les loyers, l'augmentation des loyers, vu le contexte d'inflation. Ça me semble tout à fait indispensable. Néanmoins, la philosophie générale qui est parfois en France très très souvent utilisée, c'est effectivement l'idée que les propriétaires seraient riches et que le locataire serait pauvre. Je peux vous assurer que je connais des locataires qui sont très riches et beaucoup plus que certains petits propriétaires qui souvent se sont saignés aux quatre veines pour avoir un petit apport parfois de 20 000 euros, hein, des montants comme ça, pour acheter un petit appart ou une petite maison en province que tout le monde n'habite pas à Paris 7e, hein, pour information. Et quand vous êtes en deuxième couronne, en région parisienne, c'est pas non plus exactement les mêmes prix. Donc voilà, c'est très dommage. En fait, très souvent, c'est un équivalent aujourd'hui économiquement d'être propriétaire ou locataire. Vous avez à peu près le même genre de montant. C'est juste un choix. Est-ce que vous remboursez un crédit ou est-ce que vous payez un bailleur ? Mais donc fondamentalement, cette opposition, elle est souvent largement exagérée.
Les vraies voix, 17h14 à 17h30, notre premier débat. Le PS va-t-il imploser ? Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix pour les tours de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Tom Conan. C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous me racontez pas votre petite journée ?
On a assez perdu de temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger, vous êtes un peu le Molière des vraies voix, puisque vous allez nous dire que diable Fabien Roussel allait-il faire à la NUPES ?
Oui, alors, j'ai commencé par écrire 4 alexandrins de mirliton, absolument nuls.
Ah oh bah allez-y.
Mais le coupable, c'est Philippe David qui, dans un dialogue que j'ai eu avec lui ce matin, l'a suggéré. Mais rassurez-vous, après j'essaierai de dire une chose un peu plus cohérente. Les 4 alexandrins, voilà. Fabien Roussel, dans la NUPES, est énervé. Il rue dans les brancards et tout en colère, voudrait augmenter de beaucoup tous les salaires, comme il l'a dit ce matin Patrick Roger. Voilà.
Oh bon, on a alors, Bilger qui fait de la poésie, ça mérite de l'applaudissement.
Maintenant, je passe aux choses sérieuses et il est évident que Fabien Roussel, depuis le début, depuis la création de la NUP ou de la NUPES, montre une forme de dissidence libre, comme s'il était par certains côtés exaspéré par la personnalité dominatrice de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas à l'Assemblée nationale et par l'espèce de mainmise de ce projet global sur la particularité, la singularité communiste. C'était encore plus net ce matin lors de la matinale où Patrick Roger l'a questionné et où en permanence Fabien Roussel, cherchant à imposer les questions et les thèmes, disait « mais il n'y a que le pouvoir d'achat qui m'intéresse, je récuse tous les jeux politiciens », ce qui est une manière subtile de montrer qu'on n'y est pas totalement étranger. Donc voilà, Fabien Roussel, je ne sais pas combien de temps il va durer dans cette position, en tout cas il a confirmé qu'il n'était pas du tout, apparemment, prêt à rentrer dans un gouvernement malgré l'offre, semble-t-il, qui lui avait été faite par le président de la République rêvant d'union nationale.
Lydia Guirous.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, ce que je remarque, c'est que souvent, c'est les gens de droite qui aiment bien Fabien Roussel.
C'est pas faux.
C'est une question... peut-être qu'ils ont plus de bon sens. Il ne fait pas l'unanimité, notamment avec... les gens de la France insoumise et les plus excessifs parce qu'il a effectivement vanté la bonne bouffe, la culture française,
le vin,
le fromage et on ne peut que le saluer. Je pense que la NUPES va très rapidement essayer de le marginaliser. Parce qu'il a cet attachement, à la France et on va voir plutôt les plus caricaturaux et les plus radicaux de la NUPES qui sont souvent issus de la France insoumise émerger davantage dans le débat public.
Après, je trouve que c'est pas la même logique parce qu'effectivement, Roussel, il a une forte personnalité, il est d'ailleurs assez intéressant, hein. Il a une formule originale du point de vue de sa communication et même de son projet d'une certaine façon, mais il la joue quand même assez perso, alors que la NUPES c'est quand même vraiment un projet collectif, donc effectivement, il y a peut-être une vision dominatrice de Mélenchon derrière, mais fondamentalement, c'est quand même un mouvement collectif, quand même extrêmement large. Donc ça qu'ils essayent de pousser. Et donc le problème de personnes comme Roussel, qui ont cette personnalité un peu comme ça d'électron libre, c'est justement de casser cette dynamique collective au profit d'un intérêt personnel et d'un capital sympathie personnelle.
Le tour de table de Lydia Guirous, vous voulez parler, ma chère Lydia, d'Éric Coquerel, qui vient d'être élu président de la Commission des Finances il y a quelques heures.
Oui, voilà. France 2022, on revient à la NUPES, on revient à la partie la plus radicale de la NUPES, à savoir la France insoumise. Éric Coquerel, donc, qui vient, la France a donc un président de la Commission des Finances qui est un homme d'extrême gauche. Donc on ne s'attendait pas à ça il y a quelques mois, il y a encore quelques semaines. Personne n'imaginait avoir un extrémiste trotskiste hein, qui vient quand même vraiment de la gauche la plus radicale, la plus anticapitaliste, qui a une idéologie révolutionnaire, qui est communautariste par opportunisme et électoralisme, qui est pro-Hamas, être à la tête de cette commission si stratégique, qui donne accès à des données
fiscales,
qui a aussi, le président de la commission des finances, il faut le rappeler, a le pouvoir de déclarer qu'un amendement est recevable ou pas, donc il peut bloquer certaines choses et ralentir la réforme de l'État. Donc c'est quand même assez incroyable voilà, qu'on en soit arrivé là. Moi ça m'inquiète beaucoup, c'est un signal qui est très mauvais, qui est envoyé à l'ensemble des entrepreneurs, au marché aussi, au niveau international. Ça va être quand même compliqué d'avoir des investisseurs qui vont venir en France. Et bon, espérons le meilleur, mais ça présage des débats très difficiles.
Philippe Bilger.
En effet, pour récuser le Rassemblement national et le candidat Tanguy, on est allé chercher à LFI, à mon avis, le pire des présidents d'une commission des finances. Au-delà de la commission des finances, Éric Coquerel s'est en permanence singularisé par des positions outrancières extrémistes sur tous les sujets et sans qu'il ait évidemment le talent de son chef de file, Jean-Luc Mélenchon. garçon. Je trouve qu'il y a une responsabilité. Je comprends tout à fait Charles de Courson qui, pour des raisons familiales, voue une haine absolue au Rassemblement National, mais qui a permis, par cette haine, l'élection d'Éric Coquerel. Je trouve que c'est très dangereux, surtout qu'au sein de la NUPES, il y avait une candidate très remarquable qui aurait été estimée par tous, Valérie Rabault. Je trouve que c'est une étrange manière de mettre en évidence les compétences et les incompétences.
Tom Collin.
Ouais, effectivement. Bon, après, est-ce que concrètement cette personne pourra agir seule? Non, je veux dire, c'est quand même aussi un collège. Donc après, est-ce que vraiment de sa propre initiative, il y aura des politiques à proprement parler, des initiatives qui seront prises? C'est pas certain. On verra à l'épreuve du temps. Effectivement, c'est un peu étonnant. Je comprends néanmoins la position de principe qui a été rappelée de faire barrage à toute personne issue du Rassemblement National. Donc c'est selon cette logique-là, après, que toute autre personne pouvait faire l'affaire. J'imagine qu'en tout cas, c'est ça la logique qui a été suivie.
Mais un dernier mot, Lydia Guirous, c'est une question qui pose question, une élection qui pose question, puisque, je le rappelle, théoriquement, le président de la Commission des Finances, il n'y a pas de secret fiscal pour lui, Bercy doit lui transmettre tous les dossiers fiscaux qu'il demande.
Bien sûr, donc espérons qu'il fasse preuve de responsabilité et qu'il n'utilise pas ce pouvoir à des fins qui soient autres que celles de servir l'intérêt général.
Philippe Bilger ?
Oui, c'est évident, mais là, je ne ferai pas un procès d'intention à Éric Coquerel.
C'est quand même une question qui est intéressante.
D'autant plus que ça n'est jamais votre genre de ne jamais faire de procès, n'est-ce pas, Philippe Bailly? mais en réalité, autant il peut m'exaspérer sur le plan idéologique, autant je le crois tout de même, je l'espère, un honnête homme. Parce que ça ne relève plus de la technique et de la compétence technique, mais de l'intégrité.
Oui, et puis surtout, il agira dans le cadre de la loi. Donc, je veux dire, il n'y a pas de compétences extraordinaires. Effectivement, il y a des compétences spécifiques, mais elles ne sont pas extraordinaires de ce point de vue-là. Donc, bon, à un moment donné, voilà. Et puis surtout, s'il connaît bien ces sujets, je ne sais pas s'il a vraiment une compétence spécifique sur les questions fiscales, mais bon, en soi, c'est une question fondamentale. Je veux dire, dans l'époque où on est, où il y a eu quand même beaucoup, je le rappelle, de dettes publiques qui a été contractée avec la crise Covid et bien avant aussi, c'est pas inintéressant de savoir si l'argent est bien payé, s'il n'y a pas de pratiques douteuses, évasives par rapport à l'impôt. Je veux dire, en soi, c'est quand même quelque chose de légitime.
Les vraies voix, 17h27. Tout de suite, notre premier débat. Le PS va-t-il imploser, puisque c'est l'heure de règlement de compte à Hockey Parti Socialiste? Et a priori, ça va être assez virulent, puisque ça monte, a priori, ça va monter jusqu'à un ancien président de la République. Vous êtes 89,1% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826-300-300, on va en débattre avec Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférence de droit public à Paris 2.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
La grande purge a commencé au Parti Socialiste, puisque les 57 candidats ex-socialistes encore et 22 suppléants qui avaient refusé de rejoindre la NUPES lors des législatives viennent d'être suspendus par la direction en attendant une éventuelle exclusion au cas par cas qui sera décidée par la Commission nationale des conflits. Ce qu'on leur reproche, s'être présenté aux législatives hors NUPES. Il y a du beau monde quand même avec Frédéric Cuvillier, ex-ministre des Transports de Hollande, suppléant dans le Pas-de-Calais, les quatre candidats de la Sarthe soutenus par Stéphane Le Foll ou les candidats d'Occitanie soutenus par Carole Delga. Mais ce n'est peut-être que la phase 1 de la purge, puisque la direction du parti entend organiser un débat lors d'un prochain bureau national pour parler des cadres qui ont soutenu des candidats dissidents. Et il y a du très lourd avec un ancien président de la République, François Hollande, un ex-premier ministre, Bernard Cazeneuve, et deux anciens membres du gouvernement sous Hollande, Carole Delga et Stéphane Le Foll. Tiens, on conclut avec un extrait de cette chanson de Robert Charlebois qui date d'il y a pile 30 ans.
Quand on ne sait pas, il faut qu'on split. C'est toi qui pars, ou moi je te quitte. Sois pacifique, je reste authentique.
Sois pacifique, je reste authentique, mais quand on se souvient de l'ambiance qu'il régnait au Congrès de Reims ou au Congrès de Rennes, On peut en déduire que ça ne va peut-être pas être si pacifique que ça. Le PS va-t-il imploser? Vous êtes 88,1% à dire oui. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2. Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Comme le chantait Robert Charlebois, faut qu'on se sépare, il faut qu'on se quitte.
Alors oui, enfin, après ça dépend de ce qu'on appelle implosion, c'est-à-dire est-ce que le parti en interne va imploser au point que demain il y ait deux PS, c'est pas si évident. C'est-à-dire qu'on voit que malgré tout, les dissidences partent un peu en rang désorganisé, qu'elles sont essentiellement territoriales. C'est plus un nouvel effet de la féodalisation du PS, qui est aujourd'hui devenu un parti, essentiellement un parti de notables, notamment d'élus locaux, qui ont des intérêts contradictoires à la fois entre eux et avec la direction. Donc on risque beaucoup plus d'assister à une forme de balkanisation d'espace socialiste avec des entités locales qui apparaîtraient, avec une Carole Delga qui contrôlerait une partie des fédérations du Sud-Ouest, avec peut-être d'autres fédérations qui s'autonomiseraient en Bretagne, avec de l'autre côté une volonté de reconstruction d'une forme de social-démocratie, de parti social-démocrate hors NUP derrière les Hollandais. Tout ça ne fait pas forcément une unité d'action. En revanche, du coup, la purge, entre guillemets, si on veut la qualifier comme ça, permettrait de tenir pour la direction beaucoup plus fortement que ce qu'il resterait du Parti socialiste.
Philippe Bilger, qui n'est pas le plus socialiste des vraies voix aujourd'hui.
Non, mais en fait, je considère que cette volonté de purge est un aveu de faiblesse, parce qu'au fond, c'est un parti en déliquescence qui a besoin de trouver des prétextes périphériques pour laisser apparaître une sorte de rigueur qui est complètement ridicule compte tenu de sa situation. D'autant plus que, me semble-t-il, il y avait toute légitimité à discuter l'accord qui avait été conclu sous l'emprise de LFI et le caractère programmatique validé par ce qui restait du Parti Socialiste sous Faure. J'ajoute que moi, qui aime un petit peu les personnalités, parfois au détriment des idées, je n'imagine pas que ça aille au bout, dans la mesure où les personnes qui sont retrouvées en dissidence ou qui les ont favorisées sont de très loin les personnalités que, pour ma part, j'estime le plus dans la mouvance socialiste. Je pense à Carole Delga, je pense à Stéphane Le Foll et même à, bien sûr, François Hollande, et j'oubliais Bernard Cazeneuve. Donc je n'imagine pas que ce parti socialiste exsangue, malgré le bouche-à-bouche politique qui lui a été fait par la France insoumise, puisse aller jusqu'à être aussi ridicule dans ses tentatives de rétorsion et de répression.
Benjamin Morel.
Mais il faut bien comprendre que pour le Parti socialiste, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que si jamais vous ne faites pas, entre guillemets, le ménage par rapport aux dissidences, vous actez le fait qu'en réalité, il n'y a plus de direction au sein du parti. Et que ce parti est devenu un peu à l'instar du Parti radical de gauche ou du Parti radical tout court pendant des décennies et des décennies, une forme de conglomérat d'élus locaux qui font un peu ce qu'ils veulent chacun de leur côté, avec une direction nationale extrêmement faible qui n'a plus réellement de volonté d'exercer le pouvoir au niveau national. Le Parti socialiste tel qu'il existait ces dernières années, un parti attrape-tout qui en fait capitalisait sur une seule chose à travers les différences idéologiques, qui était le fait qu'il était le véhicule pour la gauche qui pouvait lui permettre d'arriver au pouvoir et que donc malgré les divergences, il fallait s'allier derrière son panache blanc pour pouvoir l'emporter. Ça aujourd'hui, ça apparaît terminé. Donc l'option parti radical est aujourd'hui une partie des élus locaux, ce que porte une partie des élus locaux. De l'autre côté, il y a la volonté de se resituer sur un paysage national qui implique du coup une clarification idéologique extrêmement nette, ce qui implique pour une direction nationale eh bien, d'avoir l'ensemble des manettes. Or, avec cette structure aujourd'hui qui est celle du PS, elle n'a pas toutes ses manettes, d'où probablement en effet cette volonté un peu de purge. Après, le problème évidemment, c'est que purger est une chose, certes, mais encore faut-il savoir où l'on va. Or aujourd'hui, il n'est pas évident que le PS lui-même sache où il va.
Lydia Guirous.
Je pense que le PS va terminer comme ces petits partis qu'on a au niveau du centre, que ce soit le Parti radical de gauche ou le Parti radical valoisien. à savoir un parti d'appoint pour une force politique un peu plus importante et qui va négocier quelques sièges, quelques circonscriptions pour garder les élus qui sont déjà installés. Ça va devenir un parti de notables, ça l'est déjà, et un parti d'entre-soi. Et je trouve qu'Olivier Faure commet en fait une erreur stratégique en essayant de faire preuve un peu comme ça d'autorité. Il se comporte un peu en autocrate dans ce parti qui n'est pas en très très bonne santé et qui s'est soumis à la France insoumise.
Et bravo pour le jeu de mots.
C'est pas mal ça.
C'est pas aussi bien que les vôtres, j'ai tenté. Mais c'est vrai que pour le Parti Socialiste renaître, je vois mal comment ils vont pouvoir renaître et retrouver une voie et retrouver un espace politique s'ils sont dans cette soumission à la France insoumise et s'ils font déjà un nettoyage des figures qui sont les plus appréciées auprès des Français, qui sont les figures les plus expérimentées et parfois même les figures les plus prometteuses si on parle de Carole Delga qui a des ambitions importantes pour les échéances à venir. Donc je pense que c'est une erreur de stratégie de la part du patron du PS.
Benjamin Morel et ensuite Tom Conan.
Difficile à dire pour l'instant parce qu'en réalité on a un paysage politique qui est encore, on l'a déjà commenté dans cette émission, mais excessivement fluide. On a un électorat qui est extrêmement fluide et qui plus est, on a un électorat social-démocrate qui est aujourd'hui encore en partie capté par Emmanuel Macron. Or on sait qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. La question c'est qu'est-ce qui se passe pour cet électorat ? Est-ce qu'il se met à revoter socialiste ? C'est l'espoir de beaucoup de socialistes. Est-ce qu'il se trouve un nouveau véhicule politique et idéologique ? C'est loin d'être évident. Donc aujourd'hui, il y a des velléités de sauver un petit peu les meubles avec des stratégies différentes pour les sauver, le temps que cet électorat eh bien, redevienne, se relibère, entre guillemets, en 2027. Et la NUP est une façon de conserver pour le Parti Socialiste une base, notamment à l'Assemblée nationale, les financements qui vont avec, qui sont extrêmement importants, le temps de que cette mauvaise période, entre guillemets, se passe. Évidemment, c'est un pari qui est assez risqué, et c'est un pari qui, pour être emporté, passe par un travail de fond, passe par un travail idéologique qui, pour l'instant, n'a pas été mené.
Tom Conan.
Ouais, alors moi, vous savez, j'ai souvent l'esprit mal placé. Donc je sais pas.
Ça nous avait pas échappé, ça.
Voilà. Donc on va pas échapper à la règle. Mais non, je sais pas qui est soumis, insoumis, qui s'est fait castrer, donc qui pratique le BDSM, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est effectivement le Parti Socialiste a vraiment loupé le coche idéologique depuis plusieurs années, ça c'est certain. Et ce coche-là a été pris par NUPES, en tout cas par LFI, etc. Ça c'est certain. Quoi qu'on pense de leurs idées sur les questions sociales, les questions de commerce international, les questions écologiques, etc., ils sont quand même, je vais pas dire à l'avant-garde, mais en tout cas, ils ont compris vraiment les différents enjeux. Encore une fois, quels que soient les avis qu'on ait sur ces nouvelles approches-là. Et ils ont pris vraiment à bras le corps avec des personnalités assez charismatiques, et y compris des choses. Moi, j'aime bien, vous savez, le niveau un peu zéro de la pop culture, par exemple YouTube, la chaîne YouTube de Mélenchon, je suis désolé, je parle même pas du personnage. Bah, c'est pas un puits de savoir, mais en tout cas, c'est vraiment un nid de connaissances pour l'ensemble de ces nouvelles approches. Encore une fois, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Et donc, c'est bien ce type de personnalités qui ont développé très fortement le nouveau squelette de ce que pourrait être la gauche. Donc, tout le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il a voulu tellement se centriser effectivement dans une logique bourgeoise, de notable, etc., que finalement, ils n'ont rien compris. En tout cas, ils n'ont pas avancé suffisamment d'idées, insufflé de nouvelles idées, alors qu'elles existent à une échelle internationale. Quand vous voyez dans d'autres pays, le monde anglo-saxon notamment, bah, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'approches sur le genre, sur l'écologie, sur la fiscalité, sur l'économie, etc. Et on ne sait pas ce qu'ils font, en fait. Et pourtant, ils ont largement le cerveau pour fonctionner, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notables du PS qui sont ultra formés, ultra diplômés, etc. Mais ils n'ont pas voulu faire ce taf-là. Je ne sais pas pourquoi.
Sur la politique, je reste répondre Benjamin Morel. Sur le BDSM, c'est Philippe Bilger qui va vous répondre, parce qu'il a une grande expertise dans ce domaine.
Magnifique.
Benjamin Morel.
Oui, je viens de répondre à cet aspect.
BDSM, c'est le bondage, c'est le fait de se mettre des cordes.
Oui,
je pourrais vous faire une démonstration. Peut-être pour la chaîne YouTube de Sud Radio éventuellement.
D'accord, d'accord.
Patrick Roger, si nous entend.
Mais Tom, vous avez le temps de distraire un peu de temps du bondage pour venir à cette radio?
Ah, mais moi, j'ai toujours le temps pour le bondage. Hein.
Benjamin Morel.
C'est essentiel.
Eh bien, nous ne sommes que jeudi.
Attendez, bonne soirée.
Benjamin Morel.
Non, mais il faut comprendre que, en fait, ce qui est vu comme une faiblesse aujourd'hui pour Parti Socialiste a longtemps été un avantage. C'est-à-dire que les partis attrapent tout, et c'est la même chose pour Valère, hein, pour la droite, ont comme principal avantage, justement, d'avoir un logiciel qui est un logiciel extrêmement fou, parce que ça vous permet de parler à plusieurs électorats et d'avoir un argument massue, qui est de dire si la droite va arriver au pouvoir, si la gauche va arriver au pouvoir, il n'y a qu'une solution, c'est nous. Mais si jamais vous avez un logiciel trop défini, trop, entre guillemets, clivant, vous risquez de perdre des électeurs. Donc ces partis avaient justement comme principale caractéristique d'entretenir une forme de flou idéologique. Le problème, évidemment, c'est que ça marche bien quand vous dominez un camp politique, quand vous dominez largement un espace et que vous pouvez parier sur le vote utile en allant chercher plusieurs électorats. Le jour où vous devenez un parti de seconde zone, ou en tout cas un parti n'ayant pas de vocation majoritaire, et bien tout d'un coup, on se pose la question, est-ce que vous pouvez arriver au pouvoir? La réponse est non. Qu'incarnez-vous idéologiquement? La réponse est rien. Et donc, évidemment, les électeurs se détournent de vous. Donc il faut tout d'un coup faire ce que vous n'avez pas fait pendant des années, ce que vous n'aviez pas intérêt de faire et pourquoi vous n'êtes pas organisé pour le faire, c'est-à-dire construire un logiciel, trouver un espace politique. Et ça, évidemment, ben, pour le Parti Socialiste qui est devenu un parti, on l'a dit, de notables élus locaux qui se font élire sur des logiciels très très différents. C'est pas la même chose d'être socialiste dans une petite ville du Nord et d'être socialiste en région parisienne. Donc c'est pas du tout le même logiciel, c'est pas du tout le même électorat, etc. Donc, vous définissez, vous défendez des trucs complètement contradictoires. Donc faire ce travail-là aujourd'hui, c'est excessivement compliqué, pour ne pas dire impossible.
Excusez-moi, mais tant vous, mon cher Benjamin Morel, que Lydia Guirous m'avez inspiré quelque chose quand Lydia... Pourquoi vous me regardez comme ça?
Parce que je suis inquiète, je non, me demande que ce que vous allez
Lydia
dire.
Quand Lydia Guirous a dit que plateau. Le PS allait finir comme une force d'appoint, comme le Parti Radical de gauche, oui, depuis un certain nombre de décennies, vous m'avez donné tous les deux, Benjamin et vous, un flash. Est-ce que quelque part, finalement, le devenir du PS, c'est pas d'imploser avec une force d'appoint pour... NUPES, ou vu comment ça s'appellera à l'avenir, et l'autre partie pour LREM, et même chose pour LR, avec une partie qui servira d'appoint à LREM et l'autre au Rassemblement National. Benjamin Morel.
Ne dites pas de mal de LR. Alors,
mais j'ai pas dit de mal, j'ai fait un constat.
Oui, oui, non, projection. Un constat selon la méthode davidienne. Hein.
C'est pas impossible, mais je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de devenir une force d'appoint. C'est-à-dire que la force, on parlait du Parti Radical, la force du Parti Radical, c'est en réalité de ne pas vraiment avoir d'existence nationale ou d'avoir une existence nationale relativement limitée. L'important pour un parti d'élus, c'est de tenir les collectivités territoriales, de tenir les baronnies, etc. Or, c'est très très, je dirais que c'est, vous pouvez éventuellement envoyer quelques votes, etc., histoire d'obtenir des avantages pour votre collectivité, mais c'est très très confortable d'être dans l'opposition, parce qu'en fait, la plupart des élections locales tournent au vote sanction contre le gouvernement. Regardez les élections régionales sous Sarkozy, la France passe aux roses. Regardez ce qu'il advient des oui. élections régionales sous Hollande, la France passe au bleu. Parce qu'en réalité, généralement, les électeurs se déplacent pour sanctionner le gouvernement. Donc si jamais vous êtes structurellement un parti d'opposition qui ne fâche personne et qui apparaît relativement en adéquation avec la faible participation électorale qui est mobilisée aux élections locales, être dans une opposition, mais dans une opposition sage, tranquille, centriste, tout au cours de votre mandat, c'est la meilleure position que vous pouvez rêver.
Tom ouais. Cullen veut réagir.
Moi, à mes yeux, le souci, c'est qu'effectivement, avec NUPES et malgré tout la progression assez impressionnante de ce mouvement tout jeune, on verra effectivement ce que ça donne par la suite, c'est quand même, effectivement, malgré tout, la perception d'une forme de radicalité, même si avec les différentes nuances qu'il y a à l'intérieur, évidemment, on peut imaginer des prises de position finalement plus modérées à l'avenir, on verra ça.
C'est 50 nuances de gauche.
Voilà, mais le problème, c'est quand même la perception. Et le problème, c'est que comme les élections, on sait, aujourd'hui, elles se gagnent généralement au centre, ce qu'on dit souvent, il faut quand même ramasser pas mal de voix centre-gauche, centre-droit, en tout cas ne pas trop cliver effectivement. Tout problème, c'est est-ce que la gauche, c'est toujours pareil, c'est cette éternelle question qui revient souvent, mais là qui va revenir de plus en plus, c'est qu'elle sera capable de gagner à nouveau. C'est de la radicalité, effectivement, c'est tentant, bien sûr, mais en même temps, derrière, ça vous éloigne d'un électorat qui serait un peu plus timoré, un petit peu plus frileux sur certains sujets et sur une forme qui serait trop éloigné par rapport au modèle institutionnel actuel.
Le mot de la fin, Benjamin Morel, en une minute.
Oui, alors, c'est pas si évident. Hein. C'est-à-dire que là, on est un peu dans le mythe de ce qu'on appelle l'électeur médian. Grosso modo, vous avez 50% d'électorat à droite, 50% à gauche, et il faut arriver à avoir 50,001%. Mmh. En réalité, dans une période de forte abstention, celui qui gagne, c'est pas celui qui a le plus large électorat. C'est celui qui arrive le mieux à mobiliser son électorat. Ouais, et vous mobilisez beaucoup plus un électorat radical. Par ailleurs, quand vous prenez les enquêtes, regardez les enquêtes qui portent sur les questions identitaires, on a un électorat qui, en fait, est pas du tout au point médian. Il est plutôt très à droite. En revanche, sur les questions économiques, prenez une enquête IFOP pour l'humanité de mai 2020, vous voyez que l'électorat est au contraire très 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 à gauche. Donc on a des valeurs qui sont en fait très très polarisées et on a de l'autre côté une capacité de mobilisation sur ces valeurs qui est en effet plutôt extrême. Donc viser le centre aujourd'hui n'est pas forcément une bonne stratégie.
Merci beaucoup Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférence en droit public à Paris 2, verdict sur Twitter. Le PS va-t-il imploser ? Vous êtes 88,9% à dire oui. Ça vous dirait la chronique politique de Philippe Rossi ?
On l'attend, on l'attend.
Eh bien, ouais. C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lia Guirous et Tom Conan. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, bonsoir à tous.
LR, RN et majorité se seraient-ils entendus secrètement ?
Oui, certains se posent la question, enfin surtout une personne.
La République, c'est moi !
Toujours lui, toujours lui. Le chef de la NUP et certains élus de la NUP soupçonnent les Républicains, le Rassemblement National et la majorité de s'être plus ou moins entendus pour obtenir quelques postes clés à l'Assemblée nationale. Mais y a-t-il des preuves ? On vous explique tout, petit retour en arrière. Comment les places importantes à l'Assemblée ont-elles été distribuées ? Bien, comme il n'y a pas eu d'accord concret, comme c'est souvent le cas, eh bien, tous les députés ont voté à bulletin secret. Ce qui a permis, par exemple, hein, au Rassemblement National, dès le premier tour et à la majorité absolue, de décrocher deux postes de vice-président de l'Assemblée. Si un tel résultat a été obtenu, c'est forcément, évidemment, c'est de la logique, qu'il y a eu des votes de certains élus de la majorité et de certains élus des Républicains. Attention, l'accusation d'entente secrète entre le RN, les LR et la Macron commence un peu à se dessiner. De plus, le RN n'a pas voulu présenter un candidat à l'un des trois postes de questeur. Le RN a préféré que le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, soit réélu. Enfin, avant-hier, le RN avait déjà retiré au second tour son candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Tout simplement pour permettre à la candidate macroniste Yaël Braun-Pivet d'être élue. Voilà, tout ça finit donc de convaincre la NUP d'une entente, voire d'un accord entre le RN, les LR et la Macronie pour que la NUP n'obtienne pas de poste. Ça démarre bien cette nouvelle législature. Eh oui, un vrai feuilleton, mais ce n'est pas fini. Qu'en pense Stanislas Guérini ?
C'est la limite de Dallas. Même.
Oui. Bah, j'ai hésité entre les deux. Tiens. Qu'en pense Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique ? Y a-t-il un accord tacite donc entre la majorité, le RN et les LR ? On l'écoute.
Ce sont des délires mélenchonistes. J'ai vu hier, au moment où l'Assemblée nationale élisait la première femme présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Vous voyez la réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon de créer une polémique sur le fait que le RN avait fait le choix de s'abstenir. Mais ce sont des délires. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf dans la vie politique du pays.
Et voilà, Mélenchon transformé en grenouille par Guérini. Alors peut-on imaginer une entente entre RN, LR et majorité finalement ? Est-ce que c'est possible ? Tiens, les vraies voix à la réaction de Philippe Bilger.
Mais il est évident qu'à l'Assemblée, il y a un certain nombre de connivences, de relations, d'abstentions, d'affirmations qui relèvent du jeu politique normal. Mais il me semble que Jean-Luc Mélenchon reste toujours dans une attitude infiniment suspicieuse qui est d'autant plus étonnante qu'il tweete en permanence sur l'Assemblée nationale alors qu'il n'a pas voulu y être. Au fond, s'il avait voulu en être, eh bien, il aurait peut-être cessé de tweeter.
Ouais. Et c'est lui, on rappelle, qui avait expliqué pendant des semaines que Macron allait augmenter la TVA. Et puis après, il avait affirmé que non, c'était une logique, selon lui, qu'il n'y avait rien de tout ça. Voilà. Donc, on connaît bien l'animal, pardon, la grenouille. Lydia Guirous.
Oui, la grenouille. Non, mais c'est une habitude chez Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi lui qui avait demandé d'être élu Premier ministre. C'est lui qui est la République. On connaît ses déclarations. Là, il a tweeté le quatrième tour est ouvert.
Et commencé, ouais,
voilà.
Ouais.
Donc, bon, bah, il continue dans sa fuite en avant. Il veut toujours être... Ouais. au devant de la scène, créer l'intérêt médiatique, mais c'est au détriment de, je dirais, de la qualité du débat public.
Mmh. Il fait le show, quoi. Il fait le show, Jean-Luc
Mélenchon.
Ouais,
fait que le show.
Ouais. C'est vrai que c'est devenu un personnage médiatique autant qu'une personnalité politique. Néanmoins, il y a quand même toujours une logique de marque en politique. Et c'est vrai que ça reste quand même une marque bankable pour les idées de gauche. Je suis désolé.
Ça,
donc,
je l'ai
quoi
entendu.
Quoi qu'on en pense. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, et de la même manière que Trump, dans un camp qui n'a aucun rapport, était à certains égards too much, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, bon, je ne comprends absolument pas les deux, évidemment. Mais malgré tout, c'était une marque indispensable pour faire gagner son camp. Bon, voilà, c'est vrai.
Quand on voit les résultats à l'élection à la vice-présidence, la dernière, c'est Sandrine Rousseau, seulement 29 voix. Oui. On peut dire qu'elle a été déconstruite.
Oui,
hein,
voilà, elle a été déconstruite.
Mais c'est vrai, c'est tout. Voilà, c'est donc, il ira jusqu'au bout.
On termine avec la nouvelle ministre de la Culture qui a fait une entrée très poétique au Sénat. Oui, Rib Abdul Malak était auditionné par les sénateurs de la Commission de la Culture.
Exactement. Et pour cette première, l'ancienne conseillère culture d'Emmanuel Macron a tenu à mettre en avant, mais surtout à faire partager son amour de la poésie. Alors, est-ce que la ministre a lu quelques vers aux sénateurs? Eh bien, la réponse est oui, on l'écoute.
Oui, je sais que la réalité a des dents pour mordre, que s'il gèle, il fait froid, et que un et un font deux. Je sais qu'une main levée n'arrête pas le vent, et qu'on ne désarme pas d'un sourire l'homme de guerre.
Quelques vers donc de Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge français, qui est également le directeur artiste du Printemps des Poètes. D'ailleurs, la nouvelle ministre Rima Abdul Malak aime tellement la poésie qu'à l'Élysée, elle envoyait chaque matin un poème à ses collègues et à ses chefs. Tiens, c'est ce que je ferai demain,
très bien.
Philippe David. Il lui arrivait même d'envoyer un poème au président de la République, voilà, de temps en temps.
Moi, j'ai cru que c'était du Bilger dans un tour de table de l'actualité.
Non, mais non.
Tout à l'heure, il l'a commencé en vers. Hein.
Non, mais... J'espère qu'elle n'a pas choisi avec Macron la rime la plus facile.
Oui, c'est vrai. Moi, je pense pas qu'elle ait osé quand même.
Oh bah, c'est tout ce que vous trouvez. Macron aime les macarons.
Non, non.
Ah, par exemple. Bon, il pensait à autre chose.
Elle a peut-être envie d'inscrire une chose.
Ça aurait été injuste.
On parlait tout à l'heure de personnages, de figures comme Mélenchon qui a imprimé sa marque. Peut-être qu'elle a envie d'imprimer aussi une marque un peu comme Christiane Taubira qui aimait déclamer des vers et montrer que c'est une femme de culture. Après, je ne sais pas si les Français ne vont pas être agacés si elle multiplie ça.
Oui, mais la poésie, c'est quand même bien. Moi, j'étais au festival de Saumur là, ce week-end, et j'ai rencontré des poétesses, parce que c'est quand même une espèce rare, hein, à un moment donné. D'ailleurs, on parlait beaucoup de livres sur des animaux, mais ça n'a pas de rapport. Et donc, c'était vraiment discuté avec elles. Il y avait vraiment une approche très originale. En fait, la poésie aujourd'hui est très, très peu consommée,
c'est
si
vrai,
j'ose dire,
c'est
alors
vrai.
qu'il y a une créativité
et la poésie,
dans la poésie.
C'est sa passion, hein, la ministre de la Culture. C'est sa passion.
Donc, moi, je trouve que c'est un angle très intéressant. Au contraire, c'est pas attendu.
Merci Philippe Rossi pour cette poésie.
Ah bah merci à vous.
Ça vous va ?
Merci à vous.
Les vraies voix, 17h57 à 18h30, notre grand débat. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste ? Vous êtes 89% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour le journal.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie, Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire, et Tom Conan, artiste essayiste, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. À 18h30, notre grand débat. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste ? Et vous êtes 89,4% à dire oui. Ça va les vraies voix ?
Au top.
Super.
Très bien.
Un tour de table de Tom Conan, ça vous dirait ?
Oh oui.
Eh bien, c'est parti.
Oui.
Les vraies voix Sud Radio.
Et vous voulez nous parler, mon cher Tom, de la monétisation du corps ?
Voilà. Alors, comme vous le savez, bon, il y a eu plusieurs théories sur le capital, hein, dans l'histoire des idées, notamment le capital économique. Hein, bon, c'est Marx, le capital social.
Le titre d'un livre qui fut un best-seller à l'époque.
Exactement, qui est toujours très actuel. Le capital ensuite social, culturel, qui a été théorisé plutôt par Bourdieu, dans la deuxième partie du XXe siècle. Et il y a ensuite une théorie un peu plus récente, qui est ce qu'on appelle le capital érotique ou le capital sexuel. C'est notamment une sociologue américaine, je crois, qui s'appelle Catherine Hakim. Et en fait, ce qui est intéressant, elle donne un peu les bases à ce qui se passe et à ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait dans le contexte de crise économique un peu généralisée, je ne parle pas uniquement de la période actuelle, d'inflation, là je parle pour le coup là de la période qu'on vit actuellement, et les personnes qui sont en situation de précarité ou qui veulent diversifier leurs sources de revenus, parfois pensent à monétiser leur corps. Sauf que, évidemment, on sait que le plus vieux métier du monde, la prostitution, ça existe toujours. Mais en fait, ça a aujourd'hui pris des formes bien différentes. En fait, aujourd'hui, vous avez maintenant des plateformes qui existent, qui permettent très facilement, notamment, je pense au milieu gay, mais pas uniquement, bah, de proposer vos services d'escorting, le terme étant un peu plus pudique que prostitution, mais finalement, ça revient exactement à la même chose. Et moi, j'étais assez frappé parfois de voir que des personnes qui sont en études ou qui travaillent peuvent avoir une activité de ce type-là à côté. C'est parfois assez surprenant. Et ensuite, il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle OnlyFans. Peut-être vous connaissez la plateforme OnlyFans, qui est une sorte de Twitter, un petit peu, qui fonctionne exactement sur le même principe, sauf que vous pouvez vendre des contenus premium à des abonnés. Alors vous pouvez vendre n'importe quoi, ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des cours, etc. Mais en pratique, c'est beaucoup utilisé effectivement pour vendre des contenus à caractère pornographique, photos, vidéos, etc. Moi, j'ai pas d'ailleurs de jugement là-dessus. Hein. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir effectivement qu'il y a notamment chez les générations Z, donc les gens qui ont près une vingtaine d'années, qui sont de plus en plus tentés par cette approche-là pour justement avoir un peu d'argent de poche, pour payer leur loyer, etc., etc. Alors certains après systématisent l'approche et en font carrément un job full time, si j'ose dire, mais c'est vraiment un phénomène avec beaucoup d'entrées possibles dans le monde anglo-saxon, quelque chose qui est très développé, et en France aussi maintenant de plus en plus. Donc la monétisation du corps, et du corps pas seulement en tant que tel mais en tant qu'objet sexuel et sexualisé.
Philippe Bilger, qui a un corps parfait d'ailleurs.
À chaque fois que j'entends Tom, je découvre de nouvelles configurations de la modernité dans le domaine du sexe. J'espère, Tom,
moi
que
aussi,
vous ne
Philippe,
choisissez pas
aussi.
Ces sujets pour faire plaisir à Philippe David.
Ah non, moi
je
connais. Non, ah ben vous me rassurez, Tom. Mais en effet, je suis très intéressé par le fait que tous les jours, on découvre en effet de nouvelles figures de la sexualité. Là, je suis sérieux. Et ce qui montre bien que c'est une mine inépuisable. Et vous avez totalement raison de nous informer, de nous mettre au goût du jour. Et j'espère que la prochaine fois, Tom, vous aurez encore quelque chose d'autre à nous proposer.
Lydia Guirouz, vu les propos que Philippe Bilger a tenus à mon encontre, faisant passer pour quelqu'un de porté sur la gaudriole, pouvez-vous, en même temps que vous répondez à Tom, me servir de témoin de moralité?
Absolument pas.
Ah oh bah merci.
Absolument pas. Je rejoins Philippe Bilger. C'est vrai que je le rejoins aussi sur le fait qu'à chaque fois que j'écoute Tom, je découvre de nouveaux aspects de notre société et notamment de la jeunesse qui me fait prendre tout d'un coup un coup de vieux. Je découvre mon âge et alors je suis effrayée de découvrir qu'il y a un réseau social qui permet de vendre
du porno, ouais.
du porno, et que des jeunes, j'avais déjà travaillé sur cette question de la marchandisation du corps des jeunes et de leur capacité à vendre des parties de leur corps, des images, des vidéos et ce genre de choses, mais qu'il y a un réseau social dédié à cela, ça m'inquiète énormément. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui désacralisent leur corps, qui ont envie de gagner leur vie en devenant influenceurs, en utilisant ces nouveaux moyens de communication qui sont extrêmement, très facilement accessibles et difficilement contrôlables pour des parents. C'est aussi la mère de famille qui parle.
C'est les majeurs qui font ça, c'est pas les mineurs,
majeurs,
je précise quand même.
Mais même si votre enfant a 18, 20 ans ou 25 ans, je serais pas heureuse, même si elle est majeure, de savoir qu'avec une application depuis sa chambre, elle peut faire ce genre de choses. Moi, je trouve ça...
Le mot de la fin, vous voulez pas me servir de témoin de moralité, comme
non,
Philippe Bilger, Lydia Guirouz de Vol.
En fait, ce que je veux dire, c'est que...
Même Tom Gaz, on peut vraiment tout dire.
On peut avoir une approche un peu duale sur le sujet. Effectivement, d'un côté, il y a la dimension très dur du monde des comics dans lequel on est, des jeunes qui peuvent aller à la banque alimentaire, qui ont des manques de ressources et qui vont éventuellement faire de l'escorting, qui vont lancer des plateformes de ce type-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et évidemment, cette version-là, elle est tragique et elle montre vraiment le modèle économique dans ses aspects les plus sombres et les plus problématiques. Mais d'un autre côté, il y a aussi, et ça aussi qui rend la chose assez intéressante et complexe, des personnes qui n'ont pas du tout besoin d'argent, mais qui le font sciemment, qui le font parce que justement, ils considèrent que, après tout, le capital sexuel, comme d'autres types de capitaux, peut être utilisé et monétisé, et qu'après tout, il ne doit pas y avoir de suprématie d'autres types d'approches, et il n'y aurait pas donc d'interdiction morale là-dedans.
Les vraies voix, 18h13. À 18h30, notre grand débat. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste? Vous êtes 89,6% à dire oui. Mais tout de suite, on va parler de cette vidéo qui est virale. Une jeune femme qui a été violée et qui pleure devant le tribunal d'Evry, puisque son violeur, qui a pourtant un casier judiciaire très chargé, n'ira pas en prison. Pourquoi ? parce qu'il a un enfant de 2 ans. C'est absolument hallucinant. On va être en compagnie de son avocate, Maître Solnia Elmidouli. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Giroux et Tom Conan. C'est une vidéo qui est virale sur Twitter depuis ce matin. Sur cette vidéo, une jeune femme pleure devant le tribunal d'Evry. Elle pleure parce que son violeur, récidiviste qui était jugé pour un autre viol et une agression sexuelle supplémentaire, n'ira pas en prison alors qu'il a été reconnu coupable de ses faits et condamné à 6 ans de réclusion, dont 2 fermes. Mais sa peine sera aménagée puisqu'il a eu un enfant il y a 2 ans. Nous sommes en compagnie de Maître Solnia Elmidouli, avocate de Karine Sansalone, qu'on devait avoir, mais qui est a priori très éprouvée, et on la comprend. Maître Solnia Elmidouli, bonsoir.
Bonsoir. Effectivement, elle a été, très perturbée, très choquée par le verdict d'hier.
On le comprend tout à fait, elle a toute notre solidarité. Pas une minute de prison, vu la gravité des faits et surtout le casier pour le moins chargé de l'intéressé. C'est hallucinant.
Il a été déjà condamné pour des faits d'agression sexuelle en janvier 2016 par le tribunal de Paris. Il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, avec des obligations de soins et d'indemniser les victimes. Et malgré cela, lorsqu'il est jugé en 2022 pour des faits de octobre et d'août 2016, et de récidive pour l'agression sexuelle, la cour d'assises a considéré, un, qu'il était quand même coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire qu'il a été déclaré coupable des 2 viols et de l'agression sexuelle à l'égard de au moins 3 des victimes, même s'il y en avait beaucoup plus qui étaient cités dans le dossier, mais qui se sont pas constitués partie civile. Et la Cour a décidé que 6 ans avec 4 ans de sursis probatoire, c'était adapté à la situation, parce que ce monsieur n'avait pas commis de nouvelle infraction depuis 2016, qu'il était suivi régulièrement par un psychiatre, hein, et qu'il s'était un peu, qu'il a donné entre guillemets des gages de sécurité et d'insertion en termes familial, puisqu'il était avec une compagne et une enfant de 2 ans et une activité professionnelle en tant que gérant d'une société de taxi. Et en sachant qu'il est chauffeur de taxi avant, qu'il en a eu l'interdiction pendant son contrôle judiciaire, et que c'est grâce à son taxi qu'il attaquait ses proies, hein, qu'il chassait, qu'il rôdait dans les rues de parisienne et de la région parisienne pour attraper des jeunes filles, fragiles et petites de taille, frêles, pour les violer dans son taxi.
Philippe Bilger.
Maître, pardon, maintenant la cour d'assises est un peu loin de moi, mais... Il y a eu une instruction judiciaire, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Et est-ce qu'à un moment donné, il a été placé en détention ou jamais ?
Aucunement. Aucun jour de détention provisoire, jamais. En réalité. Non. Au départ, les affaires sont prises de manière séparée. Il y a des viols et des agressions sexuelles sur Paris. On met un peu de temps à retrouver ce monsieur, bien qu'il ait donné son numéro de portable et qu'on sait qu'il est un chauffeur de taxi. Et puis c'est la victime qui a été violée à Massy, dans l'Essonne, qui va être prise en charge par les gendarmes. Et c'est eux qui vont faire une fiche, de signalement pour retrouver d'autres faits de viol qui pourraient correspondre au même scénario et au même profil d'agresseur. Et c'est comme ça qu'on va regrouper toutes les affaires.
D'accord. Voilà. C'est une cour d'assises de Paris, non ?
Non, d'Evry.
Non, c'est une cour d'assises d'Evry.
Voilà. D'Evry, ah oui, d'accord.
Qui pourtant n'est pas connu pour être, peu répressive. Il y a eu des affaires de viol entre époux qui ont fait l'objet de répression à 8 ans d'emprisonnement ferme pour des faits isolés. Là, ce qui nous a choqué, c'est surtout que c'était un violeur en série, un prédateur sexuel. Et c'est ça qui nous inquiète le plus.
Lydia Giroux.
J'ai vu cette vidéo ce matin qui m'a profondément bouleversée et je l'ai immédiatement transmise à toutes les personnes que je connais dans les médias et qui seraient susceptibles de médiatiser cette affaire, parce que j'ai été scandalisée, peinée pour cette jeune fille qui a plusieurs victimes. Dans la vidéo, elle a l'air très jeune, mais les faits remontent à 2016. Elle avait quel âge à l'époque
Elle avait 19 ans.
19 ans, vous rendez compte ? 19 ans. Et donc on a affaire à un récidiviste qui utilisait donc son moyen de travail, donc le taxi, pour pouvoir accéder à ses victimes. Et c'est grâce à cet emploi donc, qu'il a cette peine qui est plus qu'aménagée. Je trouve ça stupéfiant. Est-ce qu'il va y avoir un appel? Comment vous voyez la suite? Parce que ça ne peut pas rester en l'état. Je ne suis pas une spécialiste du droit, mais ça ne peut pas et ça ne doit pas rester en l'état.
Sonia El-Midouli.
Hier, quand elle fait cette vidéo, c'est parce qu'elle n'est pas sûre que l'avocat général va interjeter appel de la peine. Et donc, elle est scandalisée parce qu'on lui dit qu'il s'est passé 6 ans depuis les faits, que s'il y a appel, eh bien, il va y avoir à attendre peut-être 2 ans ou 3 ans avant qu'une cour d'assises nouvelle puisse statuer. Et que dans l'intervalle, eh bien, il se sera encore, s'il se tient à carreau, encore stabilisé, parce qu'il sera peut-être toujours avec la même compagne, qu'il aura toujours cet enfant ou peut-être d'autres, et que la durée qui se sera écoulée mettra mal à l'aise peut-être un jury d'envoyer en mandat de dépôt à la suite du verdict quelqu'un qui sera resté libre pendant autant d'années après les faits. Donc on nous fait comprendre qu'on ne juge pas la même personne, celle qui a fait les faits, et celle qui est jugée quand il y a plusieurs années qui se sont écoulées depuis, et alors que pour nous, c'était la gravité des faits.
Bien sûr.
Mais un viol est un
crime. Et le message,
oui.
Mais bien sûr.
Donc ça doit être
le message qui est donné. Voilà, le message qui est donné, c'est que le viol n'est pas si grave que ça et qu'à la fin de 6 ans de procédure, le temps joue pour l'accusé. Déjà, le doute profite à l'accusé, mais là, le temps joue pour l'accusé.
Tom Collin. Ouais,
non, mais c'est ça, voilà. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'effectivement, l'écoulement du temps en lui-même permettrait de sauver un petit peu oui. l'honneur, la face de la personne. C'est extrêmement choquant et surtout, bon, je ne connais pas les détails hein, de l'affaire, mais en revanche, je pense qu'ils sont quand même déjà assez clairs et ils ont été rappelés. Mais c'est un message terrible, effectivement, qui est envoyé à non pas à toutes les personnes qui auraient dans l'idée de violer des gens. C'est pas ça que j'ai en tête. J'ose espérer que c'est pas le cas. Mais en tout cas, effectivement, ça donne une très mauvaise incitation. Parce que je pense qu'à un moment donné, effectivement, la question des violences sexuelles, on est quand même dans un registre où, comme on a affaire à l'instinct animal le plus bas de l'homme et souvent du mâle, M-A-L-E, il n'y a rien d'autre qui peut s'opposer à cette pulsion de mort, on pourrait dire, à cette pulsion morbide, que justement la peur, la crainte d'une forte peine. C'est quand même le seul élément dans un état de droit qui permet de limiter ces ardeurs-là, si j'ose dire. Et là, le droit pénal est toute la force du droit pénal doit pouvoir jouer. Donc si ça ne joue plus, quels seront les autres garde-fous? Ce ne sera pas un garde-fou moral, puisque chez des personnes comme ça, justement, c'est ça qui fait défaut.
Sonia El-Midouli.
Bah, non seulement ça doit être effectivement quelque chose qui doit inciter, mais peut-être, et encore celui-ci parlait de pulsion, certains hommes à faire attention à bien recueillir le consentement des femmes avec lesquelles ils veulent avoir une relation sexuelle. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout que demain, des victimes se diront, est-ce que ça vaut la peine d'aller au commissariat de police, déposer une plainte, de raconter toute mon histoire, de passer devant une cour d'assises où on va remettre peut-être en question mes propos, me faire passer pour ce que je ne suis pas, et au final, avoir un accusé qui va sortir libre. Il faut savoir ce qui était le plus choquant pour ma cliente, c'était de voir qu'on arrivait tous les jours de la cour d'assises, il y en a eu 4 jours, pratiquement en même temps que l'accusé qui était libre, on passait par la même porte, il fumait la cigarette pas très loin de nous, et c'est limite nous qui étions obligés de nous cacher, d'éviter de le rencontrer, de le croiser. C'est surtout ça qui est difficile à
vivre.
Je trouve que ce jugement donne la nausée.
Ah, on est bien d'accord.
Véritablement, je le trouve scandaleux parce qu'il piétine les victimes, leur douleur, et il donne l'impression qu'on peut trouver des excuses à ces criminels. Vous avez parlé de l'excuse du temps, l'excuse d'être inséré dans le monde professionnel, cette excuse d'avoir reconstruit une famille. Alors, je ne vais pas juger, mais comment on peut reconstruire avec une personne qui est reconnu d'être coupable de viol à plusieurs reprises. Je trouve que c'est d'une violence extrême à l'égard des victimes et ça ne peut pas rester en l'état.
Et surtout, même pas une minute de préventive, on peut littéralement parler de dépénalisation du viol.
C'est un peu l'impression qu'on a eue. Maintenant, on s'en remet toujours à la justice. Et j'allais dire, le parquet nous a informé tout à l'heure qu'il avait interjeté appel. Donc on a au moins cette satisfaction que l'affaire sera rejugée et qu'on va peut-être tomber sur un jury qui sera moins attentif à ces circonstances de l'accusé et qui verra davantage la gravité des faits et la peine des victimes.
Mais la question que je me pose, madame, si c'est maître, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres affaires dans la jurisprudence qui ont été dans ce sens-là ? Parce que ça paraît quand même un peu improbable.
Ah bah surtout que l'avocat général avait demandé 12 ans pour 12 que ça ans. Se termine avec 6 ans, dont seulement 2 fermes.
Est-ce qu'il y a une jurisprudence en la matière ?
Bah, moi, je suis du barreau du Val d'Oise et le tribunal de Pontoise est peut-être un tribunal pionnier sur la défense des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Donc, on a plutôt l'habitude d'avoir des peines plus sévères, plus adaptées à la gravité de ce type d'infraction. Donc, c'est vrai que sur l'Essonne, je n'avais pas idée qu'on puisse avoir des peines aussi clémentes. Alors après... chacun peut expliquer cette décision, peut-être parce qu'on considère qu'il avait besoin d'obligation de soins et que ces soins seraient plus faciles à avoir en dehors du milieu carcéral et que s'il était incarcéré, il y aurait une rupture de ces soins avec un risque plus important de récidive à la sortie de son incarcération. Mais voilà, le message est malheureusement pas celui qui est passé auprès des victimes et des gens qui étaient dans la salle, parce que c'était pas à huis clos, c'était public.
Appel a été interjeté, ça c'est déjà quand même, vu la violence des faits et la gravité des faits, une bonne chose. Merci beaucoup Sonia Elmidouli, vous êtes l'avocate de Karine Sansalone et permettez-moi de vous dire, comme Lydia Girous, moi elle m'a brisé le cœur ce matin lorsque j'ai vu sa vidéo sur Twitter, envoyez-lui tout notre soutien et toute notre solidarité pour l'ensemble des vraies voix, je me permets de parler à votre place à tous. Tout de suite, un autre sujet lourd, le grand débat. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste ? Vous êtes 89,5% à dire oui. On va en débattre avec Malik Bezou, essayiste, auteur de « Ils ont trahi Allah », publié aux éditions L'Observatoire, et « France Islam, le choc des préjugés », publié chez Plomb.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui avait fait 131 morts et 413 blessés a été rendu hier avec l'utilisation de la perpétuité incompressible pour Abdeslam. Un procès qui aura duré 294 jours, plus longtemps que le procès Eichmann qui en aura duré 244 et presque autant que le procès de Nuremberg qui en a duré 315. Pourtant, une tribune publiée aujourd'hui dans le Figaro, écrite par l'agrégé de philosophie André Sénic, résume un sentiment partagé par nombre de Français, le titre de cette tribune, 13 novembre, le grand absent de ce projet, l'idéologie islamiste. Une tribune dans laquelle l'auteur rappelle qu'à Nuremberg, on n'a pas jugé et condamné l'idéologie nazie et que, je cite toujours, la dénonciation des crimes du communisme n'a pas débouché sur le procès en bonne et due forme de l'idéologie de ce système. Contrairement aux deux idéologies les plus criminelles du XXe siècle, faut-il au XXIe siècle juger les idéologies criminelles ? Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste ? Et vous êtes 89,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Malik Bezou, essayiste, auteur de « Ils ont trahi Allah », publié aux éditions de l'Observatoire, et « France Islam, le choc des préjugés », publié chez Plomb. Malik Bezou, bonsoir.
Bonsoir.
Bien près du micro.
Bonsoir.
Criminel, raciste, machiste, homophobe, on a déjà 4 chefs d'accusation pour le projet de l'idéologie islamiste, non ?
Oui, a priori. Mais alors là, je vais peut-être émettre une réserve par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est que moi, je considère que tous les islamismes ne se valent pas. Et je sais que ça va sûrement choquer, mais... Il existe des formes d'islamisme légaliste qu'on retrouve en Algérie, en Jordanie, etc. Et il existe un islamisme exalté, fanatique, violent, qui s'illustre avec les actions, par exemple, de Daesh. Mais tout mettre dans le même sac, ça peut être dangereux. Par exemple, concrètement, si on prend l'extrême droite, française aujourd'hui actuelle, celle de Marine Le Pen, qui à mon sens n'est plus vraiment d'extrême droite, dire que c'est la même chose que le nazisme ou le néonazisme, c'est grotesque, ça n'a aucun sens. Et ben, je considère que dans l'islamisme, il existe des nuances, parce que tout ne se vaut pas. Daesh, c'est pas la même chose que certaines mouvances islamistes en Algérie, qui appelait à la concorde nationale, qui ont rejoint le gouvernement d'union nationale, etc. Donc on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Donc tout ça pour dire que c'est plus complexe que cela, à mon sens.
Philippe Bilger.
Mais vous avez totalement raison, c'est très complexe. Et si je peux Philippe, vous avez dans votre présentation évoqué évidemment le nazisme, le communisme et l'idéologie meurtrière islamiste. Moi, je considère que tout de même, même si je n'étais pas un fanatique de ces lois qui portaient atteinte à la liberté d'expression, que le nazisme, d'une certaine manière, a trouvé son procès avec Nuremberg. D'ailleurs, il faut être clair, en dehors de quelques groupuscules néo-nazis, on peut dire que le nazisme, en tant qu'idéologie mortifère et scandaleuse, est unique, a disparu. Le communisme, c'est différent. Je pense que s'il avait fait l'objet d'un procès global sur le plan des terreurs qu'il a créées, peut-être aurait-on moins, dans notre espace intellectuel, d'anciens communistes qui sont davantage crus que ceux qui ne se sont jamais trompés sur la nature du communisme. Mais je viens vite à l'idéologie islamiste. Moi, ce qui me... D'abord, il est faux de dire qu'on n'en a pas parlé. Même dans ce procès qui a duré 10 mois, rien que pour asseoir une accusation, il a été nécessaire au ministère public, à trois voix tout à fait remarquables, d'aborder un petit peu le terreau à partir duquel ces crimes ont été commis. Et dernier élément, ce qui me paraît pour l'instant s'opposer à un procès global, c'est le fait que malheureusement, nous ne sommes pas sortis de l'angoisse historique et sociale d'en avoir encore davantage. À partir du moment où nous sommes condamnés à une lutte au quotidien contre le terrorisme islamiste et rien ne démontre qu'il est éradiqué, tout démontre le contraire, il me paraît difficile de faire un procès comme si le processus meurtrier était terminé.
Malik Bezou.
Oui, alors là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire notre ami. Il y a une certitude sur laquelle là, je vais tout à fait converger avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'on n'en a pas fini. Et on est loin d'en avoir fini. Ce que j'appelle, moi, les islamopathes, c'est-à-dire ces individus qui ont une relation pathologique à la religion, à l'islam, au rapport à la modernité, sont une réalité qui est... Parce qu'il faut revenir un peu en arrière, pendant pratiquement un demi-siècle, avec le soutien massif des États-Unis, l'Arabie Saoudite a diffusé un véritable cancer théologique, qui est le wahhabisme, et ce... avec l'argent du pétrole, les pétrodollars, et ça a été infusé dans tout le monde islamique, et puis en l'espace d'un demi-siècle, le monde musulman a changé, et une idéologie ultra-dogmatique, fanatique, sectaire, extrêmement intolérante, le wahhabisme, s'est donc diffusé dans le monde entier, et en particulier, bien sûr, en terre d'islam, et donc aujourd'hui, j'allais dire, on récolte... ce qu'on a semé, nous non, mais on a été extrêmement complaisant, pour le moins avec l'Arabie Saoudite, et donc effectivement, et moi je le dis toujours, on a l'islam qu'on mérite. Aujourd'hui, effectivement, demain, je prie pour que cela n'arrive pas, mais un islamopathe va prendre un couteau et puis aller tuer des personnes comme ça au nom d'Allah, et puis en Angleterre, et puis en Italie, à Paris, etc. On n'est pas sorti de l'auberge. De ce point de vue-là, c'est une réalité malheureusement.
Lydia Guirous.
Pourquoi voulez-vous que je
Est-ce qu'il faut faire un procès de l'idéologie islamiste?
Évidemment, parce que cette idéologie tue, parce que cette idéologie est liberticide, parce que cette idéologie est misogyne, antisémite, homophobe, parce que cette idéologie a fait couler le sang, parce que elle nous a condamnés aussi, puisque il y a eu de nombreux écrits qui ont dit à quel point ils étaient dans la haine de l'Occident et de ce que l'on pouvait représenter. Donc bien sûr qu'il faut faire le procès de cette idéologie et essayer de s'en débarrasser, d'en débarrasser une partie de notre jeunesse qui a décidé d'aller vers la vision la plus rigoriste et sectaire de l'islam, quittant ainsi l'islam des grands-parents qui étaient beaucoup plus sécularisée. Et l'intégrisme est la maladie de l'islam, comme le disait Medeb, comme Voltaire disait que l'intolérance était la maladie du catholicisme. Donc oui, il faut absolument qu'il y ait un procès contre cette idéologie, mais la meilleure façon de lutter contre cette idéologie, en tout cas en France, et en tout cas dans l'esprit des plus jeunes qui se sont davantage tournés vers une vision rigoriste, et on le voit bien avec l'émergence de tenues de plus en plus prosélytes, y compris au sein de l'école, et il y a eu des polémiques récemment avec des jeunes filles qui vont aller avec des robes qui signifient bien qu'elles appartiennent à une certaine communauté religieuse, ou des garçons en dépit de la loi de 2004. Bah, ça va être par l'éducation, par davantage d'instruction, pour qu'ils développent leur esprit critique, mais malheureusement aujourd'hui l'esprit critique recule, la rigueur républicaine recule, donc nous verrons bien comment ça va évoluer dans les années à venir, mais je ne suis pas très optimiste.
Vous êtes comme Malik Bezou, a priori.
Alors en tout cas, pourquoi moi ça me gêne, cette notion de procès vis-à-vis de l'islamisme, c'est que déjà, on a énormément de mal à définir l'islamisme. Moi, j'avais fait un article il y a quelque temps dans Le Monde des Religions, où j'explique qu'en réalité, le problème, c'est pas tant l'islamisme que la sclérose de la théologie musulmane qui s'est pas renouvelée, qui s'est pas adaptée, qui n'a pas suivi, qui n'a pas fait une grande réforme. L'islam a été figé et ensuite a été extrémisé en quelque sorte, ou radicalisé par le wahhabisme. Donc à la limite, je serais tout à fait partisan que l'on fasse le procès du wahhabisme, parce que le wahhabisme, il y a des contours bien définis sur le plan théologique, mais l'islamisme, ça commence où, ça finit où exactement? Il existe des mouvements démocrates musulmans, à l'instar des mouvements démocrates chrétiens. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de dire où commence l'islamisme. Est-ce que c'est le port du foulard, sachant que le port du foulard était prescrit?
Mais arrêtez, où commence déjà... l'islamisme, c'est pas possible d'entendre ce genre de choses.
Ben oui, mais dites-moi, où commence l'islamisme? Vous avez parlé du foulard, mais le foulard ne relève pas de l'islamisme, puisque dans les textes de théologiens classiques de l'islam, du 8e, du 9e et 10e siècle, on avait déjà la préconisation du port du voile.
D'accord.
Donc,
alors,
ce que vous voudrez faire, ce serait le procès de l'islam.
Vous savez, déjà, le port du voile n'est en rien une obligation. Dans le texte, je pense que dire que quel est l'islamisme, tel islamisme, pas tel islamisme, ça c'est couper les cheveux en quatre, c'est flou, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je trouve que douteux comme approche.
Tom Conan.
Moi, pour le coup, je connaissais pas le travail de monsieur, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Malik depuis tout à l'heure.
Malik n'a rien à voir avec l'idéologie islamiste. Moi, j'ai lu ses livres, notamment son dernier livre sur l'antisémitisme, etc. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais en tout cas, moi, ce qui me semble effectivement compliqué dans l'idée de vouloir faire un procès à l'islamisme ou l'idéologie islamiste, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est faire un procès à une religion. C'est quand même un peu compliqué. Est-ce que, si vous voulez, en fait, l'islam, de la même manière que le christianisme, que le judaïsme, que le bouddhisme, que d'autres religions non monothéistes, c'est pas uniquement une idéologie. Évidemment, il y a des aspects théoriques, politiques, de philosophie politique, de philosophie morale dans les religions, bien entendu, mais ce ne sont pas juste des théories. Hein. C'est pas comme si on démontait la théorie néoclassique, vous voyez, sur le commerce international. Là, c'est un peu facile. Là, vous faites des études économétriques et vous démontez une théorie, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans une religion. Une religion, c'est aussi un processus culturel, historique, qui a quand même créé, disons, des civilisations, en tout cas, qui a été quand même à l'origine de la création de plusieurs civilisations. C'est un grand débat. Mais voilà, donc en fait, attaquer de manière frontale une religion, oui, ça me semble en fait complètement aberrant, puisque ça veut dire qu'en gros, vous mettez dans le même sac, effectivement, un grand nombre de pratiques, y compris historiquement, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un manté, de la même manière que, même si c'est pas le sujet, le catholicisme a été très intolérant à une certaine époque, l'est beaucoup moins maintenant, même s'il y a toujours des mouvements extrémistes de catholiques, bien entendu. Mais non, c'est toujours le même sujet. Est-ce que c'est-à-dire qu'en gros, en globalisant l'ensemble, c'est-à-dire que vous dites qu'à la racine, il y a un problème.
L'islamisme a une vision,
la religion,
politique.
Moi, je pense qu'une religion, et ça, on le dit très rarement, c'est pas uniquement une idéologie, c'est des pratiques. Ce sont des pratiques. Des pratiques par qui ? Par des personnes humaines, des collectivités humaines, etc. Donc elles sont changeantes selon l'époque, selon les lieux, selon les mœurs, etc. Donc on ne peut pas considérer que des pratiques en elles-mêmes peuvent être attaquées, globalisées, mises dans un même sac, en fait, puisque ça ne correspond pas à la réalité.
Malik Bezou. Oui, et après, Philippe Bilger veut réagir.
Très bien. Donc, effectivement, c'est important de le rappeler, je considère que les trois fléaux, les trois plaies de l'islam, c'est la politisation de l'islam, ce que l'on appelle couramment l'islamisme, mais pour moi, c'est un raccourci malgré tout, mais c'est un véritable problème. L'islam a été gangréné par sa politisation. Son institutionnalisation, le fait que de rendre l'islam religion d'État dans les pays musulmans, c'est un véritable fléau, c'est une plaie, et sa radicalisation par le wahhabisme. Donc, c'est les trois, j'allais dire, maladies ou plaies qui aujourd'hui font du tort à cette religion musulmane. Mais juste un point sur cette difficulté que l'on a à décrire, à bien cerner les contours de l'islamisme. Vous prenez l'université Al-Azhar, qui est considérée comme, comment dirais-je, la référence.
Si je ne m'abuse, c'est en Égypte.
C'est en Égypte, hein. Donc les représentants de l'orthodoxie musulmane. Le recteur de la grande université Al-Azhar a dit, il n'y a pas très longtemps, qu'un homme musulman pouvait frapper son épouse à condition de ne pas lui briser les os. Donc, cet individu explique sans cesse qu'il est, avec son institution, à l'avant-garde du combat contre l'islamisme. Mais ces propos-là sont absolument abominables.
Et ils
sont insupportables. C'est un feu vert donné pour n'importe quel musulman, lorsqu'il considère que son épouse n'est pas docile ou soumise, il peut la frapper, mais avec une limite, il ne faut pas que je lui brise les os. Donc, en réalité, ce qu'il faut remettre en cause, ce qu'il faut travailler fondamentalement, c'est la théologie qui s'est sclérosée, et l'islamisme, c'est qu'un aspect du problème. Les islamistes, cher Lydia Girous, n'ont rien inventé en réalité. Ils ne font que puiser dans le corpus théologique de l'islam, qui est figé depuis le XIIIe siècle, et il est là le problème. Aujourd'hui, on va guérir de ce fléau, de l'islamisme, de son institutionnalisation et du wahhabisme par les courants réformistes. Mais ça va demander du temps et beaucoup de temps.
Philippe Bilger voulait réagir.
Imaginons que c'est une question que je pose à notre invité, que après avoir dit que le procès de l'islamisme meurtrier n'avait pas de sens parce que probablement il va continuer à tragiquement endeuiller certains pays, est-ce que vous ne croyez pas tout de même que si on globalisait à partir des attentats, des crimes, des meurtres, est-ce que on ne pourrait pas identifier un terreau toujours similaire qui permettrait en quelque sorte de mettre en cause un groupe sur lequel pèserait une culpabilité exclusive. Je veux dire par là que le terreau qui a conduit aux assassinats, est-ce que vous considérez qu'il est équivoque ou qu'il est suffisamment simple pour permettre un procès, si on désirait le faire ?
Malik Bezou.
Oui, évidemment, tous les mouvements qui appellent à la violence, à prendre les armes, je pense à Boko Haram, Al-Qaïda, l'ancien GIA algérien, Daesh, toutes ces organisations qui prennent les armes, qui commettent des attentats contre des civils, ces mouvements-là qui sont malgré tout très minoritaires dans le monde musulman et même marginal, mais ils font énormément de dégâts. Oui, tous ces mouvements-là, on peut, comment dirais-je, les combattre. Mais la difficulté de faire un procès à l'islamisme, c'est que vous avez des mouvements très conservateurs dans le monde musulman, qui ont des visions, alors pour le coup, homophobes, misogynes, etc., mais qui ne relèvent pas de l'islamisme et qui ne relèvent en aucun cas de la violence radicale, etc. Si vous prenez ce qui se passe aux États-Unis avec le triomphe des ultra-conservateurs, en tout cas de la Cour suprême qui a fait voter permet aux États d'interdire l'IVG, c'est sous-tendu par quoi ? Qu'est-ce qui motive finalement ces juges-là ? C'est quand même une vision de la religion, une lecture intégrée.
Bien sûr.
Mais on retrouve ça aussi chez les musulmans conservateurs et ultra-conservateurs. Sont-ils des islamistes ? Et donc la question, c'est où commence l'islamisme ? C'est très compliqué à définir. Je rappelle que le voile est prescrit dans l'islam classique. Ce n'est pas de l'islamisme en tant que tel. Donc c'est compliqué. En tout cas, ce qu'on peut condamner, c'est la violence, l'intolérance, l'usage des armes par définition, puisque c'est du terrorisme. Ensuite, c'est plus délicat.
Merci beaucoup Malik Bezou, essayiste, auteur de « Ils ont trahi Allah », publié aux éditions de l'Observatoire, et « France Islam, le choc des préjugés », publié chez Plomb, verdict sur Twitter. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste ? Vous êtes 89,8% à dire oui. On a eu deux sujets lourds là consécutivement, on va se faire un sujet beaucoup plus léger les amis. le dernier match d'un certain Marius Trésor pour l'inauguration du stade Jacques Chirac. On va en parler dans quelques instants sur Sud Radio, ça va se passer dans la Corrèze.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz, Tom Conan, mon cher Philippe Rossi. Un stade Jacques Chirac sera inauguré samedi en Corrèze.
Oui, plus précisément, c'est le village de Marciac-la-Croisille, 784 habitants qui inaugurera ce stade, le stade donc Jacques Chirac. Et à cette occasion, eh bien, un match de gala caritatif sera organisé entre le club local de la SMC et le Variété Club de France de Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques Vendroux.
Bonsoir les amis.
Bonsoir. Journaliste chez nos confrères d'Europe, hein, président du Variété Club de France. Déjà, un petit mot sur ce stade, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce stade Jacques Chirac qui va être inauguré. Jacques Vendroux, vous avez des informations ?
Eh bien, c'est une première. Oui. C'est-à-dire qu'il y a environ 2 ans, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de stade Charles de Gaulle. Et donc, on a inauguré le stade Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, je me suis aperçu, il y a 6 mois, qu'il n'y avait pas de stade Jacques Chirac dans toute la France, dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc, j'ai appelé Claude Chirac et je lui ai demandé si on pouvait... baptisé le stade de Marciac-la-Croisille, qui est tout près de Brive, donc dans la région où a été élu Jacques Chirac, à ses débuts en politique. Elle m'a dit oui immédiatement, ça a duré 40 secondes, elle était très contente, et elle se fait du souci pour savoir si tout va bien se passer, si notre voyage ne va pas être trop long, etc. Enfin, il y a ce côté protecteur de la famille Chirac, et évidemment, tout le monde est très très heureux d'aller samedi, donc... je veux dire, en Corrèze, à Marseille, ouais. La Croisille.
Évidemment. Voilà. Et je rappelle que les fonds récoltés iront à la Fondation Jacques Chirac qui accompagne des personnes en situation de handicap. Alors, pour ce match, il y aura des joueurs de renom que l'on connaît tous. Oh, j'en cite quelques-uns. Robert Pires, Christian Carambeu, Dominique Rocheteau, Claude Puel, Alain Giresse, l'enfant du pays, Laurent Koscielny et Marius Trésor. C'est le dernier match de Marius Trésor.
Alors, j'ai fait un challenge avec Marius, ouais. Il y a environ 3 ans. On avait organisé aussi le dernier match de Michel Platini, ouais. À l'occasion du jubilé Olivier Rouillet à Nancy. C'était ses 5 dernières minutes. Et puis, environ un an, on a fait la même chose avec Jean-Michel Larquet, qui a joué son dernier match à Poissy avec le président de la République. Donc, je me suis lancé quelques challenges sur les grands, grands anciens du Variété Club de France qui ne jouaient plus, vous voyez. Et je leur ai dit, allez, faites-moi 5 dernières minutes pour me faire plaisir. J'ai appelé Marius, puis Marius, qui a été opéré je ne sais pas combien de fois dans sa carrière. Tu as passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, en rééducation. Est-ce que tu ferais 5 minutes pour me faire plaisir ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu auras ton numéro 5, ton brassard de capitaine, comme à la belle époque. Et Marius vient, il arrive la veille avec Alain Giresse. Ils vont se retrouver tous les
deux. Oh là là, deux débuteurs de Séville, ouais. 40 ans après.
Alors justement...
Mais voilà, mais il y aura un clin d'œil. Il y aura un clin d'œil
sûr.
À Séville, évidemment.
Jacques Vendroux, je vous propose de jouer
un
avec
quiz.
Nous. Voilà. Et vous aussi, si vous nous écoutez, jouez avec nous et Jacques Vendroux. Tiens, on va réécouter les
un
commentaires.
But
voilà,
de Marius Trésor, mythique, mais c'est pas en français, Jacques, et il faut deviner.
Alors écoutez.
França empatando a partida. Trésor, o zagueiro foi lá. Tocou e marcou 2-2 no placar do Maracanã. Trésor, França empata a partida.
Quel but de Marius Trésor, quel match. Oh, on a reconnu le nom du stade, hein. C'est en portugais.
C'est Maracanã.
Absolument.
Et c'est un France-Brésil, enfin Brésil-France, où Marius marque, et le deuxième but de l'équipe de France, je crois qu'il est marqué par Didier Six. Si mes souvenirs sont exacts.
C'est le premier qui était marqué par Didier Six sur une reprise magnifique et Trésor à 5 minutes de la fin.
Et on peut avoir la date, vous avez la date ?
30 juin 77.
Bah voilà, 30 juin 1979. C'est une encyclopédie.
Et vous voulez une information ?
Oui.
J'y étais.
Ah bon, bah voilà, c'est pour ça que vous en rappelez. Alors je vous redonne donc le lieu à Marciac-la-Croisille. En Corrèze, pour inaugurer le stade Jacques Chirac, et donc à cette occasion, ce match de gala caritatif qui sera organisé entre le club local de la SMC et le Variété Club de France.
Jacques, vous jouerez dans les buts, comme d'habitude ?
Non. Moi, j'ai fait mes 2 dernières minutes, il y a environ 15 jours, à Calais, chez moi, dans un match organisé entre le Variété Club de France et les anciens de Lens de Gervais Martel. Donc moi, j'ai fait mes deux dernières minutes de ma modeste carrière, moi. Ça y est, maintenant c'est définitivement terminé. Maintenant, je vais m'occuper du cas Marius et je vais m'occuper après d'un ou deux joueurs qui ne peuvent plus jouer, mais que je vais refaire jouer pour la circonstance.
Eh bien, c'est génial et ça se passe samedi.
Mon prochain objectif, c'est Moustapha Dalem.
Ah, c'est bien, l'ailier gauche mythique du PSG dans les années 70. Et donc, ça se passe, oui, samedi au village de Marciac-la-Croisille, le stade Jacques Chirac avec quand même de sacrés joueurs. Hein. Giresse, Trésor, Carambeu, Rocheteau, Jiraj Kociel-Nipuel, pardon. Vraiment un très très beau challenge pour une très très belle action pour les personnes en situation de handicap. Tout de suite, notre vraie voix du jour, Philippe de Libourne, c'est pas très très loin de la Corrèze, il veut parler du PS qui a pour lui déjà implosé. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et dans quelques minutes, les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe Rossi et toute son équipe. Alors, c'est incroyable, notre vraie voix du soir s'appelle Philippe, mon cher Philippe Rossi.
Bah on est à trois, on est
c'est
trois Philippe.
Philippe de Libourne, bonsoir Philippe.
Encore les Philippe.
Vous vous sentez pas dépaysé au moins?
Non, pas du tout.
Là, ça va, mais ça fait quand même beaucoup de Philippe. Hein, mais
oui, c'est bien. Sûr.
On va dire, bah, écoutez Philippe, mais lequel, etc. Alors, mon cher Philippe, vous voulez parler de notre premier débat. Le PS va-t-il imploser? Alors, sur Twitter, le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens ne se posent pas trop de questions. 90,2% de oui. Et vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il a déjà implosé?
Ben, bien sûr, il a déjà implosé, il n'existe plus. De toute façon, il y a eu une restructuration des forces politiques dans ces élections. Pour moi, il reste plus de trois camps. Il reste des centristes mondialistes. Il reste des mondialistes. Il reste le camp national. Et il reste des islamo-gauchistes.
Ça, c'est votre point de vue.
Voilà. Et donc, les socialistes, là-dedans, on peut les classer... une partie dans les islamo-gauchistes et une partie dans les mondialistes. Donc, ils n'ont plus... Le socialisme est mort, quoi. Le parti avec, quoi. Donc, la social-démocratie... C'est fini ça.
Alors justement, je vais donner la parole à Philippe Rossi, mon cher Philippe, parce qu'on va échanger. C'est un peu ce qu'on disait dans le débat de tout à l'heure avec Philippe Bilger, Lydia Girous et Tom Conan. Lydia Girous disait que pour elle, le PS allait finir comme le Parti radical de gauche, qui était un très grand parti à l'époque, le Parti radical, c'est-à-dire de servir de force d'appoint. Je vais poser la question, est-ce qu'il va imploser entre une partie qui servira de force d'appoint et l'REM? Allez, je vais dire la tendance, Le Foll, Delga, Hollande, Cazeneuve, etc., s'il y a sécession. Et l'autre partie qui servira de force d'appoint à la France insoumise, c'est la partie qui a rejoint la NUPES avec Olivier Faure, etc.
Elle a totalement raison, Lydia Girous. C'est en train de se faire, en fait, sous nos yeux, cette scission. C'est-à-dire que les dissidents PS, alors c'est acté, j'ai l'impression, ils vont vraiment être exclus.
C'est ce que j'ai compris aussi.
Alors
attention. On va pas faire une charrette, ça va être analysé au cas par cas.
Évidemment.
Mais à mon avis, le cas par cas va être assez. Vous voyez ce que
donc
je veux dire.
Donc des vrais, vrais, vrais socialistes, il y en aura plus beaucoup. Il y a ceux qui ont rejoint la NUPES, il y a ceux aussi qui vont aller peut-être Europe Écologie Les Verts. Alors il y aura peut-être une tendance Europe Écologie Les Verts. Et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un quinquennat, c'est-à-dire dans 5 ans, et il restera plus grand-chose du Parti Socialiste. Peut-être d'ailleurs, on s'est beaucoup moqué du score d'Anne Hidalgo,
1,75%. C'est pas brillant, hein.
Non, mais je pense que dans 5 ans, le candidat socialiste, s'il y en a un, fera à peu près 2-3%.
Ah oui,
j'imagine. Non.
Vous êtes optimiste, oui, 3%, oui, c'est pratiquement le double.
Oui. Donc, non, je pense que le Parti Socialiste, malheureusement, c'est fini.
On va faire réagir Philippe. Est-ce que quelque part, je me suis toujours dit une chose à droite, c'est que la droite n'avait à payer, d'ailleurs avec moins de 5% cette année, au prix fort le fait de ne pas avoir tiré le bilan du quinquennat Sarkozy. Est-ce que pour vous, si le PS en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas tiré le bilan du quinquennat Hollande, Philippe ?
Oui, ils n'ont pas tiré le bilan du quinquennat Hollande, mais c'est surtout, c'est surtout Hollande qui a tué le PS, en fait. Parce qu'en fait, c'est là le mal originel. Quand il a été élu, il avait un boulevard après Sarkozy pour changer de politique. Il a rien fait. Il a pas fait de la social-démocratie. Il a fait du centrisme. Donc c'est normal que Macron il soit arrivé et qu'il ait tout fracassé parce que déjà.
Parce que la nature a horreur du vide et qu'il y avait le vide à gauche.
Oui. Exactement. Et puis Hollande, il avait aucun charisme. Donc, il a remplacé c'est la social-démocratie. Donc, mais c'est pareil de l'autre côté. Hein. Les LR, ils ont pris le même chemin. Ils auront la même punition quand on voit qu'ils ont Ils ont fait une erreur stratégique monumentale ce matin avec l'élection à la commission des finances en privilégiant Coquerel. Mais c'est n'importe quoi. Leurs électeurs.
Alors, les fini, LR quoi. Disent qu'ils n'ont pas. Alors, j'ai lu plusieurs comptes Twitter de responsables de LR. Ils disent qu'ils n'ont pas voté pour Coquerel, mais que c'est des élus LAREM qui, théoriquement, ne prenaient pas part au vote, qui auraient permis l'élection d'Éric Coquerel. Je demande à voir, on approfondira.
Philippe, non, mais sur le PS et les Républicains, oui, du quinquennat Hollande et du quinquennat Sarkozy. Je pense qu'effectivement, Hollande a énormément affaibli le Parti Socialiste, et c'est Emmanuel Macron qui a fini de les s'achever. Pareil pour Nicolas Sarkozy, qui a énormément, sur la fin, affaibli le Parti Républicain, et c'est Emmanuel Macron qui a fini de les achever. Donc, finalement, c'est un duo Macron-Sarkozy et Macron-Hollande qui ont tué et le PS et les Républicains. Et là, avec ce qui se profile avec la NUP, le Rassemblement National et ses 89 députés, je ne vois pas ni le PS ni les Républicains renaître de leurs cendres dans 5 ans. Cela dit, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait jamais quel candidat représentera les Républicains dans 5 ans. C'est par exemple le maire de Cannes, David Lisnard, par exemple. Peut-être qu'il peut faire renaître les Républicains.
Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Désolé, je souris parce qu'il y a quelques années, quand ils avaient créé, en 2002, l'UMP, ça ne s'appelait pas encore les Républicains, tous les Républicains disaient... Oui, c'est bien, il faut le bipartisme avec avec l'UMP, il y aura le bipartisme, PS-UMP. 20 ans plus tard, c'est le tripartisme, mais il n'y a plus ni PS ni l'UMP. Vous, les Républicains, comme ça, a changé de nom entre-temps. C'est pas assez cocasse, Philippe, de Libourne ?
Non, mais oui, si, c'est cocasse, mais il a changé, en fait. Ils ont voulu se calquer un peu sur des pays comme les États-Unis et tout ça. Mais le problème, c'est que en France, on n'a pas la même culture politique. Il y a toujours eu un peu du radicalisme à gauche, ce qu'on appelait la gauche, et du radicalisme un peu ce qu'on appelait la droite. Et du coup, ils n'ont pas vu venir pour des raisons de pur pantouflage politique, je dirais, ils ont surtout pas voulu voir venir, et du coup ils se retrouvent dans un monde qu'ils comprennent pas, dans une France qu'ils comprennent pas, et du coup ils essayent de survivre, mais idéologiquement ils ont plus rien, ils sont complètement perdus.
Philippe Francis, c'est pas intéressant. Ils ne comprennent plus la France. C'est vrai que le PS, ça parle plus aux Français. Les Républicains, ça parle plus aux Français. Les campagnes de Hidalgo et de Pécresse étaient totalement hors sol.
C'est vrai.
Totalement hors sol.
Mais je me demande si, d'une manière générale, les politiques ne sont pas hors sol. Parce que finalement, les Rassemblements nationaux, on le sait, c'est un vote de protestation. Si beaucoup ont voté pour des députés Rassemblement national, c'était pour affaiblir Emmanuel Macron. C'était pas non plus un vote d'adhésion. Mais je pense qu'en règle générale, les politiques sont devenus hors sol et ne font plus partie du quotidien des Français. Vous voyez, par exemple, là, on a beaucoup débattu sur Éric Coquerel à la tête de la commission des finances, mais ça parle pas aux Français, ça. Ils s'en fichent complètement. Ils pensent à leur pouvoir d'achat, ils pensent à la sécurité. Fini, ça.
Demandez-leur le nom des présidents.
Ah, ils connaissent pas. Ils connaissent pas.
Personne ne les connaît. Merci beaucoup, Philippe de Libourne. Voilà, mon cher Philippe Rossi, vous allez être dépaysé. Il n'y a pas un Philippe parmi vos invités.
Non, alors ça, c'est sûr. Je serai le seul. Le seul. Avec Mobility TV, dans quelques instants, les vraies voix qui font rouler la France. Alors, vous savez que ce week-end, c'est le premier week-end de grand départ en vacances.
Ah, oui.
Et beaucoup, beaucoup de Français vont privilégier la voiture, puisque la voiture, ça reste le moyen de transport privilégié par les Français pour leurs déplacements cet été. On va beaucoup parler de la voiture électrique. Est-ce qu'il y aura assez de bornes de recharge? On va parler aussi de l'entretien de son véhicule avant les longs trajets. Il faut y procéder. On aura des spécialistes avec nous. Vincent Fanguet, directeur d'exploitation du réseau SANEF. Pierre Courgeon, directeur France de Fastned, le réseau de bornes de recharge, et puis Christophe Rollet qui nous rejoindra, directeur général de .S. Voilà, on roule ensemble jusqu'à 20h sur Sud Radio avec Mobility TV, mais dans l'immédiat, c'est Conseil de famille avec Stéphane Moller.